Ce bel esprit d'initiative sociale disparut en un rien de temps, balayé par la fièvre des aimants, les calculs astronomiques, les rêves de transmutation et l'ardent désir de connaître les merveilles du monde. D'entreprenant et propre qu'il était, José Arcadio Buendía eut bientôt l'air d'un vagabond, négligé dans sa façon de se vêtir, avec une barbe hirsute qu'Ursula réussissait à grand-peine à tailler avec un couteau de cuisine. Il se trouva toujours quelqu'un pour le considérer comme la malheureuse victime d'un étrange sortilège. Pourtant, même ceux qui étaient les plus convaincus de sa folie quittèrent travail et famille pour le suivre lorsque, jetant sur son épaule ses outils de défricheur, il demanda à chacun de lui prêter main forte afin d'ouvrir un sentier qui mettrait Macondo en communication avec les grandes inventions. José Arcadio Buendía ignorait totalement la géographie de la région. Il savait que vers l'est se trouvait une chaîne de montagnes infranchissables, et de l'autre côté de cette montagne, l'antique cité de Riohacha, où, à une époque reculée, comme lui avait raconté le premier Aureliano Buendía, son aïeul, Sir Francis Drake s'amusait à chasser à coups de canon les caïmans qu'il faisait rafistoler et empailler pour les rapporter à la reine Isabelle. Dans sa jeunesse, lui et ses hommes accompagnaient des femmes, des enfants et des bêtes, avec toutes sortes d'ustensiles et d'effets, traversèrent la Sierra à la recherche d'un débouché sur la mer. Mais au bout de 26 mois, ils renoncèrent à leur entreprise et fondèrent le village de Macondo, pour éviter de revenir sur leurs pas. Aussi, cette route ne l'intéressait-elle pas, car elle ne pouvait que le ramener sur les traces du passé. Au sud s'étendait une zone de bourbier recouvert d'une couche de végétation inexorable. Puis, le vaste univers du Grand Marigot, qui, de l'aveu des gitans, ne connaissait pas de limite. Le Grand Marigot se prolongeait vers l'ouest par une étendue d'eau sans horizon, où vivaient des cétacés à la peau délicate, avec une tête et un tronc de femme qui égaraient les navigateurs par l'attrait maléfique de leurs énormes mamelles. Les gitans voguaient pendant 6 mois sur cette étendue d'eau avant d'atteindre la ceinture de terre ferme par où passaient les mules du courrier. Si l'on suivait les calculs de José Arcadio Buendía, la seule possibilité de contact avec la civilisation, c'était la voie du Nord. Aussi pourvut-il en outils de défrichage et en armes de chasse les mêmes hommes qu'il avait accompagnés au moment de la fondation de Macondo. Il mit dans sa musette ses instruments de navigation et ses cartes et se lança dans cette folle aventure. Les premiers jours, ils ne rencontrèrent aucun obstacle majeur. Ils empruntèrent le rivage caillouteux pour descendre jusqu'à l'endroit où, des années auparavant, ils avaient découvert l'armure du guerrier. Et de là, s'engouffrèrent dans les bois par un sentier d'orangers sauvages. Au bout de la première semaine, ils tuèrent et firent rôtir un cerf, mais se contentèrent d'en manger la moitié et salèrent le reste pour les jours à venir. Cette précaution leur permettrait de retarder le moment où il leur faudrait recommencer à manger du perroquet, dont la chair bleue avait une âpre saveur de musc. Par la suite, pendant plus de 10 jours, ils ne revirent plus le soleil. Le sol devint mou et humide, semblable à une couche de cendre volcanique, et la végétation multiplia ses pièges. Les cris d'oiseaux et le tapage des singes se firent de plus en plus lointains, et le monde devint triste à jamais. Les hommes de l'expédition se sentirent accablés par leurs propres souvenirs, qui paraissaient encore plus anciens dans ce paradis humide et silencieux, d'avant le péché originel, où leurs bottes s'enfonçaient dans des mares d'huile fumante et où ils s'acharnaient à coups de machette sur des lys sanglants et des salamandres dorés. Pendant une semaine, presque sans échanger une parole, ils progressèrent en somnambule dans un monde de désolation, à peine éclairé par la faible réverbération d'insectes phosphorescents et les poumons oppressés par une suffocante odeur de sang. Ils ne pouvaient revenir en arrière, car le chemin qu'ils ouvraient se refermait aussitôt sur leurs pas, étouffés par une végétation nouvelle qu'ils voyaient presque pousser sous leurs yeux. « N'importe, » disait José Arcadio Buendía, « l'essentiel est de ne jamais perdre le sens de l'orientation. » Se fiant toujours à la boussole, il continua à guider ses hommes en direction du nord invisible jusqu'à ce qu'ils réussissent à sortir de cette contrée enchantée. Ce fut par une nuit épaisse, sans étoiles, mais les ténèbres étaient imprégnées d'un air pur, nouveau. Épuisés par leur longue marche, ils suspendirent leur hamac et dormirent à poing fermé pour la première fois depuis 2 semaines. Quand ils se réveillèrent, le soleil était déjà haut. Ils restèrent stupéfaits fascinés. Devant eux, au beau milieu des fougères et des palmiers, tout blanc de poussière, dans la silencieuse lumière du matin, se dressait un énorme galion espagnol. Il penchait légèrement sur tribord, et de sa mâture intacte pendaient les vestiges crasseux de sa voilure entre les agrès fleuris d'orchidées. La coque, recouverte d'une carapace uniforme de rémora fossile et de mousse tendre, était solidement encastrée dans le sol rocheux. L'ensemble paraissait s'inscrire dans un cercle coupé du reste du monde, un espace fait de solitude et d'oubli, protégé des altérations du temps comme des us et coutumes des oiseaux. À l'intérieur, que les membres de l'expédition explorèrent avec ferveur et recueillement, il n'y avait rien d'autre qu'un épais buisson de fleurs. La découverte du galion, indice que la mer était proche, brisa net l'élan de José Arcadio Buendía. Il considérait comme une farce de son destin capricieux d'avoir cherché la mer sans jamais la trouver, au prix de sacrifices et de peines sans nombre, et de l'avoir trouvée sans même la chercher, en travers de son chemin comme un obstacle insurmontable. Bien des années plus tard, le colonel Aureliano Buendía traversa à son tour la région, alors régulièrement parcourue par le courrier, et il ne trouva d'autres traces du vaisseau que ses côtes carbonisées au milieu d'un champ de coquelicots. Convaincu désormais que cette histoire n'était pas un produit de l'imagination de son père, il se demanda comment le galion avait bien pu s'enfoncer à ce point dans les terres. Cette question ne préoccupa guère José Arcadio Buendía lorsqu'il rencontra la mer au bout de 4 nouveaux jours de marche à quelques 12 kilomètres de distance du galion. Ses rêves tournaient court devant cette mer couleur de cendre, écumante et sale, qui ne méritait pas les risques et les sacrifices que son aventure avait comportés. « Carajo ! » jura-t-il. « Macondo est entouré d'eau de toutes parts !» Longtemps prévalut cette idée que Macondo était situé sur une presqu'île, d'après la carte tout à fait arbitraire que dessina José Arcadio Buendía au retour de son expédition. Il en traça les lignes avec fureur, exagérant en toute mauvaise foi les difficultés des communications, comme pour se punir lui-même d'avoir choisi avec un total manque de bon sens l'emplacement du village. « Jamais nous ne pourrons nous rendre nulle part !» se lamentait-il auprès d'Ursula. « À nous de pourrir sur pied ici, sans recevoir aucun des bienfaits de la science !» Cette conviction, remâchée pendant des mois dans le cabinet qui servait de laboratoire, l'amena à concevoir le projet de transplanter Macondo en un lieu plus propice. Mais cette fois, Ursula devança ses fébriles desseins. Implacable et secrète dans son travail de fourmi, elle dressa toutes les femmes du village contre les velléités de leur mari, qui déjà commençait à préparer le déménagement. José Arcadio Buendía ne sut jamais exactement à quel moment, ni en vertu de quelle force contraire, ses plans furent bientôt pris dans un brouillamini de mauvais prétextes, de contretemps et d'échappatoires, jusqu'à se changer en illusion pure et simple. Ursula l'observa avec une innocente sollicitude, et alla même jusqu'à éprouver pour lui un peu de pitié, ce matin où elle le trouva dans le cabinet du fond en train de remâcher ses rêves de déménagement, tout en remettant dans leurs caisses respectives les objets qui composaient le laboratoire. Elle le laissa finir. Elle le laissa clouer les caisses et mettre ses initiales dessus avec un gros pinceau trempé dans l'encre, sans lui adresser aucun reproche, mais sachant qu'il n'ignorait déjà plus, elle le lui avait entendu dire dans ses monologues à voix basse, que les hommes du village ne le seconderaient en rien dans son entreprise. Ce n'est que lorsqu'il commença à démonter la porte de son cabinet qu'Ursula se risqua à lui en demander la raison. Et il lui répondit avec une amertume qui n'était pas feinte « Puisque personne ne veut partir, nous irons tout seuls !» Ursula ne s'émut pas pour autant. « Nous ne nous en irons pas, dit-elle. Nous resterons ici, parce que c'est ici que nous avons eu un enfant. »«
Nous n'avons pas encore eu de mort, répliqua-t-il. On n'est de nulle part tant qu'on n'a pas un mort dessous la terre. »
Ursula lui répondit avec une douce fermeté « S'il faut que je meure pour que vous demeuriez ici, je mourrai. » José Arcadio Buendía ne croyait pas la volonté de sa femme aussi inflexible. Il essaya de la séduire en lui ouvrant les trésors de son imagination, en lui promettant un monde extraordinaire où il suffisait de verser sur le sol des liquides magiques pour que les plantes donnassent des fruits à volonté, et où l'on vendait à bas prix toutes sortes d'appareils à supprimer la douleur. Mais Ursula fut insensible à la pénétration de ses vues.
« Au lieu de continuer à penser à toutes ces histoires à dormir debout, tu ferais mieux de t'occuper de tes enfants, » répliqua-t-elle. « Regardez-les donc, abandonnés à la grâce de Dieu, de vrais ânes. »
José Arcadio Buendía prit au pied de la lettre les paroles de sa femme. Il regarda par la fenêtre et vit les deux gosses pieds nus dans le jardin ensoleillé, et il eut l'impression qu'à cet instant seulement, ils commençaient vraiment d'exister, comme mis au monde par les adjurations d'Ursula. Quelque chose se produisit alors en lui. Quelque chose de mystérieux et de définitif qui l'arracha à son existence présente et le fit dériver à travers une contrée inexplorée de la mémoire. Tandis qu'Ursula se remettait à balayer la maison qu'elle était sûre à présent de ne jamais abandonner de tout le restant de sa vie, il continua à s'absorber dans la contemplation des enfants, le regard fixe, tant et si bien que ses yeux se mouillèrent et qu'il dut les essuyer du revers de la main avant de pousser un profond soupir de résignation.
« Bien, » fit-il. « Dis-leur de venir m'aider à vider les caisses. »
José Arcadio, l'aîné des enfants, avait 14 ans passés. Il avait une tête carrée, les cheveux hirsutes et le caractère têtu de son père. Bien qu'il se développât aussi rapidement et acquît une vigueur physique comparable à la sienne, déjà il était devenu évident à l'époque qu'il manquait d'imagination. Il fut conçu et mis au monde durant la pénible traversée de la Sierra, avant la fondation de Macondo, et ses parents remercièrent le ciel en constatant à la naissance que son corps ne comportait aucune partie animale. Aureliano, le premier être humain qui fut né à Macondo, allait avoir 6 ans en mars. Il était silencieux et timide. Il avait pleuré dans le ventre de sa mère et était né avec les yeux ouverts. Tandis qu'on coupait le cordon ombilical, il remuait la tête de droite et de gauche, repérant chaque objet qui se trouvait dans la chambre et dévisageant les gens présents avec curiosité, mais sans paraître le moins du monde étonné. Bientôt indifférent à ceux qui s'approchaient pour l'examiner, il concentra toute son attention sur le toit de palme qui paraissait sur le point de s'effondrer sous la violence terrible de la pluie. Ursula n'eut plus l'occasion de se rappeler l'intensité de ce regard, jusqu'au jour où le petit Aureliano, alors âgé de 3 ans, fit son entrée dans la cuisine au moment où elle retirait du feu et posait sur la table une marmite de bouillon brûlant. L'enfant, hésitant sur le pas de la porte, dit « Elle va tomber !» La marmite était bien posée au milieu de la table, mais à peine l'enfant eut-il émis sa prophétie qu'elle amorça un mouvement imperturbable en direction du bord, comme sous l'effet d'un dynamisme intérieur, et se fracassa sur le sol. Ursula, alarmée, raconta cet épisode à son mari, mais celui-ci l'interpréta comme un phénomène tout à fait naturel. Ainsi resta-t-il indéfiniment étranger à l'existence de ses enfants, en partie parce qu'il considérait l'enfance comme une période de débilité mentale, et également parce que lui-même se trouvait toujours trop absorbé par ses propres spéculations chimériques. Cependant, depuis cet après-midi où il demanda aux enfants de l'aider à déballer les différents objets de son laboratoire, il leur consacra le meilleur de son temps. Dans le repaire de son cabinet, dont les murs s'étaient peu à peu couverts de cartes invraisemblables et de fabuleux graphiques, il leur apprit à lire, à écrire et à compter, et leur parla des merveilles du monde, non seulement dans les limites de ses propres connaissances, mais forçant celles de son imagination jusqu'au comble du fantastique. C'est ainsi que les enfants finirent par apprendre que dans l'extrême sud de l'Afrique vivaient des hommes si intelligents et si pacifiques que leur unique passe-temps était de s'asseoir et méditer, et qu'il était possible de traverser à pied la mer Égée en sautant d'une île sur l'autre jusqu'au port de Salonique. Ces exposés hallucinants demeurèrent tellement gravés dans la mémoire des enfants que bien des années plus tard, une seconde avant que l'officier des troupes régulières ne lançât l'ordre de tirer au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía eut le temps de revivre ce 12 après-midi de mars, où son père interrompit la leçon de physique et resta soudain médusé, la main en l'air, le regard fixe, prêtant l'oreille dans le lointain aux fifres, aux tambourins et aux grelots des gitans qui revenaient une fois de plus au village pour exhiber la dernière et ahurissante découverte des savants de Memphis. C'étaient de nouveaux gitans, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ne parlaient que leur propre langue, spécimens splendides à la peau huilée, aux mains pensives, dont les danses et la musique semèrent par les rues une si folle allégresse qu'on eût dit le village en émeute, avec leurs perroquets bariolés qui récitaient des romances italiennes, et la poule qui pondait un 102 en or au son du tambourin, et le fagotin qui devinait ce qu'on avait en tête, et la machine à tout faire qui servait en même temps à coudre les boutons et à calmer la fièvre. Et l'appareil à oublier les mauvais souvenirs, et l'emplâtre pour passer son temps à ne rien faire, et un millier d'autres inventions, si ingénieuses et insolites que José Arcadio Buendía aurait voulu inventer une machine à se souvenir de tout pour pouvoir n'en oublier aucune. Ils métamorphosèrent le village en un rien de temps. Les habitants de Macondo se sentirent tout à coup perdus dans leur propre rue, abasourdis par cette fête grouillante et criarde. Tenant un enfant à chaque main pour ne pas les perdre dans la cohue, heurtant au passage des saltimbanques aux dents couvertes d'or et des jongleurs à six bras, suffoquant à cause des odeurs mêlées de fumier et de santal qu'exhalait la foule, José Arcadio Buendía marchait comme un fou, cherchant partout Melquiades, afin qu'il lui révélât les innombrables secrets de ce prodigieux cauchemar. Il s'adressa à plusieurs gitans qui ne comprirent rien à sa langue. Il finit par se diriger vers l'endroit où Melquiades avait coutume de planter sa tente et tomba sur un Arménien taciturne qui vantait en espagnol un élixir pour devenir invisible. Il avait avalé d'un trait une pleine coupe de cette substance ambrée quand José Arcadio Buendía, brutalement, se fraya un passage à travers le groupe qui assistait bouche bée au spectacle et parvint à poser sa question. Le gitan l'enveloppa de son regard terne avant de se trouver réduit à une flaque de goudron fumante et malodorante sur laquelle continuèrent à flotter les résonances de sa réponse. « Melquiades est mort !» Sous le coup de cette nouvelle, José Arcadio Buendía demeura comme pétrifié, essayant de dominer la peine qu'il ressentait. Jusqu'à ce que les gens attroupés se fussent dispersés en réclamant d'autres tours et que la flaque de l'Arménien taciturne se fût complètement évaporée. Plus tard, d'autres gitans lui confirmèrent que Melquiades avait en effet succombé aux fièvres dans les dunes de Singapour et que son corps avait été jeté dans la mer de Java à l'endroit où elle est la plus profonde. Quant aux enfants, ils n'avaient cure de cette nouvelle. Ils s'étaient mis dans la tête que leur père les emmènerait voir la merveilleuse invention des savants de Memphis, annoncé à l'entrée d'une tente, qui, selon les mêmes dires, avait appartenu au roi Salomon. Ils insistèrent tellement que José Arcadio Buendía paya les 30 réaux et les conduisit jusqu'au centre de la tente, où se tenait un géant au torse velu et au crâne rasé, un anneau de cuivre passé dans le nez et une lourde chaîne à la cheville, promu à la garde d'un coffre de pirate. Dès que le géant en eut soulevé le coffre laissa échapper un souffle glacé. À l'intérieur, on ne voyait qu'un énorme bloc translucide, renfermant une infinité d'aiguilles sur lesquelles venaient exploser en étoiles multicolores les clartés du couchant. Interloqué, n'ignorant pas que les enfants attendaient de lui une explication immédiate, José Arcadio Buendía se risqua à murmurer « C'est le plus gros diamant du monde !»« Non, corrigea le gitan, c'est de la glace !» Sans comprendre, José Arcadio Buendía tendit la main vers le bloc, mais le géant arrêta son geste. « 5 réaux de plus pour toucher !» lui dit-il. José Arcadio Buendía paya et put alors poser la main sur la glace. Et il y laissa plusieurs minutes, le cœur gonflé de joie et de crainte à la fois au contact même du mystère. Ne sachant que dire, il paya 10 autres réaux pour permettre aux enfants de connaître cette prodigieuse expérience. Le petit José Arcadio refusa d'y toucher. Aureliano, en revanche, fit un pas en avant, posa la main dessus et la retira aussitôt. « C'est bouillant !» s'exclama-t-il avec frayeur. Mais son père n'y prêta aucune attention. En extase devant cet authentique prodige, il se laissait aller pour le moment à oublier l'échec de ses délirantes entreprises et le cadavre de Melquiades livré en pâture au calmar. Il paya 5 autres réaux et, la main posée sur le bloc de glace, comme un témoin prête serment sur les saintes écritures, il s'écria « Voici la grande invention de notre époque !»